Bonjour à toutes et tous qui sont arrivés pendant la louange. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous ouvrir à la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je pense que ça intéresse tout le monde que le royaume des cieux soit à vous. J'espère. Voilà. Ces journées, c'est vrai que ce sont des journées de prière pour la délivrance, mais comme vous l'avez remarqué, pendant ces enseignements du matin, nous insistons beaucoup sur la conversion, car, je le dis, je le répète, il n'y a pas de délivrance sans conversion. Oui, on reçoit parfois, nous, les exorcistes, des coups de fil du style « Nous cherchons un guérisseur très fort. » Bon, moi, je connais Jésus, oui. Et évidemment, il va nous guérir si nous acceptons aussi de le suivre. Car Jésus n'est pas juste à notre disposition comme un médicament qu'on mettrait de côté quand on a fini. Voilà. L'âme unie à Dieu, le démon la redoute comme Dieu lui-même. Vous reconnaissez une maxime de Saint Jean de la Croix. Allez, je vous la répète. L'âme qui est unie à Dieu, le démon la redoute comme Dieu lui-même. Voilà. Alors, si nous voulons vraiment vivre la délivrance, le premier acte obligatoire, c'est la conversion. Parce que nous ne sommes pas ici pour faire de la magie. Vous savez, les prières qui marchent, non. La prière de foi, oui, c'est Jésus qui nous délivre, oui. Mais il ne fait pas cette œuvre sans notre consentement profond. Et la vraie délivrance, c'est de lui appartenir, à lui et à lui seul. J'espère que nous sommes toujours d'accord. Voilà. Donc à nous de nous disposer à un combat spirituel. Et je vous rappelle cette introduction. Quelles sont les trois portes qui nous ouvrent aux influences diaboliques? La première porte, c'est le péché. Donc, évidemment, si nous voulons la délivrance, convertissons-nous. La deuxième porte, c'est notre hérédité si elle est chargée, car elle peut avoir donné des droits aux démons sur notre famille, notre descendance. Mais voilà, ce n'est que la deuxième porte. Nous n'oublions pas la première porte. Et la troisième porte, ce sont les emprises maléfiques qui peuvent nous venir par l'exercice d'une autorité perverse, notamment si elle est motivée par la jalousie, la domination, la manipulation, l'emprise. Ça peut effectivement entraîner un manque de liberté intérieure pour nous, oui. Et puis, si cette emprise elle est opérée par magie ou par attachement à un lieu ou à un objet infesté, tout ça, vous le savez, les trois portes ouvertes à l'ennemi. Mais attention, j'insiste sur la première porte, le péché. Et parfois, si... J'espère que vous n'allez pas voir les voyants et les magnétiseurs, n'est-ce pas? Parce que je vous le déconseille. D'accord? Et souvent, nous, on entend les gens qui vont voir les magnétiseurs, ils nous disent « Oui, la dame, elle m'a dit que mon voisin me voulait du mal. » Bon, ça fait tarte à la crème. C'est souvent ça ce qu'ils vous disent. Bon, c'est tellement plus facile de se dire que les causes sont extérieures à nous-mêmes. Non. Les premières causes sont intérieures à nous-mêmes. N'oublions pas cela. Et puis, il y a 5 facteurs aggravants. Ça, c'est juste pour vous rappeler les choses. Premier facteur aggravant, les blessures d'enfance notamment, qui n'ont pas donné lieu à un pardon, à une consolation, qui reste comme inscrite en nous. Alors c'est vrai que tout ça a des conséquences d'ordre psychologique, mais aussi d'ordre spirituel. Deuxième facteur aggravant, c'est la médiumnité naturelle. Vous êtes né comme ça, ou vous l'êtes devenu. Bon. Et du coup, vous êtes comme une antenne qui capte tout. Alors travaillez sur cette antenne. Demandez à Dieu eh bien, de fermer les portes. Même si parfois, on se dit, ça peut être bien de capter des choses. Non. Demandons à Dieu de fermer ces portes-là. Troisième facteur aggravant, la modification des états de conscience, notamment à travers l'alcool ou la drogue. Quatrième facteur aggravant, les troubles psychologiques ou psychiatriques. Parfois, nous avons des personnes qui présentent des symptômes d'ordre psychiatrique, notamment l'hystérie. L'hystérie, c'est comme une mise en scène d'une réaction contre l'angoisse. Et c'est effectivement très difficile parce que la personne hystérique va jouer la possession ou même la maladie somatique, j'entends. Mais tout cela implique évidemment un recours à une aide d'ordre psychothérapeutique. Si vous faites partie de groupes de prière ou vous priez pour des personnes, faites attention à l'hystérie. Occupez-vous de moi. C'est un peu ça, la personne hystérique qui va se mettre à hurler, à pousser vraiment des grands cris quand on prie sur elle. Bon, il n'y a pas de possession. Et on en reparlera tout à l'heure. C'est un état souvent qui montre que la personne n'a pas dépassé certaines blessures, certains traumatismes. Et enfin, le cinquième facteur aggravant, c'est la persistance de schémas mentaux négatifs. Des schémas mentaux négatifs. Alors, ces schémas, c'est souvent dans nos pensées. Est-ce que nos pensées sont toujours positives? Vous savez, le New Age s'est inspiré beaucoup, en fait, de la Bible. Quand saint Paul dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse », bon, pourquoi on va être toujours dans la joie? C'est pas parce qu'on n'a pas de douleur, nous souffrons. Mais notre joie, c'est la joie de la foi, de l'espérance et de la charité. Celle-là, personne ne peut nous l'enlever, comme disait Jésus. Personne ne pourra vous ravir cette joie. Et parfois, dans nos têtes, nous avons des schémas, soit de jugement d'autrui, tout d'emblée, ou de condamnation de nous-mêmes. Bon, puis je ne vais pas vous faire la liste des pensées tordues. Sachons les rejeter dès qu'elles arrivent, ces pensées. Au nom de Jésus, je renonce à cette pensée quand ça vous prend la nuit. Au nom de Jésus, je renonce à cette pensée et j'accueille ta lumière, Seigneur Jésus. J'accueille ta lumière. Il ne faut pas seulement renoncer. Il faut accueillir la présence du Christ. Si vous ne faites que renoncer, vous tendez l'arc. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne vais pas succomber, je ne vais pas succomber, ça devient obsessionnel. Blouf, vous succombez. Seigneur, moi je renonce à cette pensée. Au nom de Jésus, j'y renonce. Et Seigneur Jésus, j'accueille ton Saint-Esprit dans mon cœur. Maintenant, ta lumière, Seigneur, ta lumière. Vous allez voir, le Seigneur est là, il agit. Mais voyez ce combat, il est déjà en chacun de nous. Alors, si on part comme ça, on est gagnant. Si nous voulons vivre une délivrance, eh bien, mettons en place une vie avec Dieu où nous faisons vraiment le choix de Dieu et de sa loi. Et c'est très, très précis après, à chaque pensée. Tout, salut, au nom de Jésus. Vous voyez, c'est pas forcément évident d'avoir ce réflexe-là. Mais je vous le conseille. Je vous le conseille. Sinon, tout ce qu'on va raconter, c'est beau, mais, excusez-moi, ça ne servira à rien. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, comme pas de conversion pour accueillir la grâce de Dieu, qui est délivrance, qui est guérison, c'est eh bien, d'entrer dans la béatitude des pauvres. Ça vous semble logique, la béatitude des pauvres ? Être pauvre, ça vous semble le bonheur parfait ? C'est votre bonheur d'être pauvre ? Ou pas ? C'est pas si évident. Hein. Notre bonheur, souvent, c'est de partir en vacances, dans des lieux sympas, de se payer des bons trucs. Waouh ! L'Évangile nous dit, bienheureux, les pauvres de cœur, les pauvres en esprit, en fait. Voilà. Alors, quand se présentent ces situations où nous sommes pauvres, c'est-à-dire nous ne pouvons plus rien, c'est un bonheur ou c'est un malheur ? Eh bien, c'est plutôt souvent un malheur pour nous. Eh oui, on a du mal. Soyons honnêtes. Être confronté à la pauvreté comme une limite, vous savez, de notre condition humaine, c'est souvent douloureux. C'est souvent douloureux. Pourtant, les limites sont voulues par Dieu. Rappelons-nous la Genèse, le récit de la création. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, c'est ce que Dieu dit à Adam. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Il y a des limites. Et un interdit, comme celui-là, est une alliance interdit. Ce qui n'est pas forcément toujours ressenti comme une alliance. Vous voyez ? Alors, on pense au Grand Bleu. Vous avez vu le Grand Bleu ? C'était il y a un certain temps. Celui qui refuse ses limites. Il faut plonger, toujours profond, toujours profond. Bon, dommage. Alors que ces limites sont un lien, finalement, qui nous rend dépendants de Dieu. Ah oui. Et dépendants des autres. Alors, il y a quelque chose que nous avons oublié, nous, les chrétiens, dans notre liturgie. C'est un peu regrettable. C'est le sabbat, le septième jour. Alors, le huitième jour, c'est le dimanche. Le septième jour. Si vous relisez ce que dit Jean-Paul II sur le jour du Seigneur, dans son exhortation apostolique. Il me semble que c'est une exhortation apostolique. Voilà. Le septième jour, c'est le jour où Dieu se repose. Alors, attention, le repos, ça ne veut pas dire l'inaction. Puisque Jésus fait ses miracles le jour du sabbat. Donc, Dieu est très actif le jour du sabbat. Mais il y a un repos. Ce repos, ça veut dire l'intimité du cœur. avec Dieu. C'est le cantique des cantiques. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de célébrer le sabbat avec des juifs pieux. Le vendredi soir, quand on entre dans ce temps mis à part, on va lire aussi le cantique des cantiques. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Alors imaginez que vous êtes créé autosuffisant, vous n'avez pas besoin de Dieu. Et ça, c'est la revendication et l'illusion luciférienne qui s'arrête au chiffre 6, sixième jour. Dieu a créé l'homme et la femme. À son image et ressemblance, donc, ils ont quand même, on a, nous, les humains, pas mal de qualités qui peuvent finalement, eh bien, et qui doivent nous donner de vivre dans une autonomie. Mais l'autonomie ne veut pas dire l'indépendance. Et la fête du sabbat, la fête, le temps mis à part du sabbat, il est là pour nous le rappeler. Vous savez, dans les familles juives, on se prépare au sabbat. Alors on fait le ménage, chacun on se lave, la douche, et puis si on peut, il peut y avoir le mikvé, c'est-à-dire un bain, purification, on se met des vêtements de fête, on met la plus belle nappe, c'est le royaume déjà là, sabbat. Et alors on peut goûter comme le Seigneur est bon. Et petit détail, très intéressant, on s'arrange pour ne pas avoir fini le travail du vendredi. Il y a un détail qu'on n'aura pas fini. Pour nous rappeler que Dieu seul accomplit toutes choses. Et non pas moi, moi, moi. C'est la guérison de cette illusion luciférienne que nous ne dépendons pas de Dieu, que nous n'avons pas besoin de lui. On peut très bien se débrouiller. D'accord. Ok. Alors, donc, première pauvreté qui est limite inhérente à la condition humaine, et nous le comprenons, cette limite va nous entraîner dans l'amour et le sabbat. Qu'il est bon, qu'il est doux de se reposer en lui, de trouver en lui notre joie. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. C'est magnifique. Et nous, chrétiens, à la fin du sabbat, Christ est ressuscité. La semaine transfigurée commence. Le huitième jour. Oh, c'est la vie nouvelle qui surgit. Et c'est la nouvelle création, le huitième jour, qui est pour nous, après, qui va illuminer toute notre semaine. Voilà le sens du sabbat et du dimanche. Alors le sabbat, on va être beaucoup dans l'horizon, dans la prière, dans l'intériorité. Et le dimanche, Christ est ressuscité. Alors on va le dire, on va visiter les malades, on va visiter ceux qui sont là. On va annoncer cette vie et cette joie. Deuxième pauvreté qui est la nôtre, eh bien, elle tient à la conséquence du péché originel. Le péché originel, c'est notre désastre, puisque nous avons fait le choix d'écouter une autre voix que celle de Dieu. Et parfois encore, nous faisons le choix d'écouter une autre voix que celle de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que le premier commandement de Dieu, c'est « Écoute Israël ». On a besoin d'une rééducation. Nous avons écouté la voix du démon qui nous entraîne dans la suspicion, dans la révolte, dans la désobéissance, dans le mensonge, avec l'illusion que nous pourrons vivre sans Dieu. Alors, dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu fait alliance avec l'homme. Mais, il y a quand même une conséquence du péché originel que nous portons encore aujourd'hui. Vous avez trois conséquences du péché originel. C'est bien expliqué dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 405. Première conséquence est l'ignorance. Osée 4, verset 6. « Oui, mon peuple périt, faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. » Nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Si nous voulons l'avoir, à nous de murmurer la parole de Dieu jour et nuit, comme dit le premier psaume. Heureux l'homme qui ne va pas au conseil des méchants. Mais cette parole, qu'elle prenne toute la place en nous, et c'est le principe d'ailleurs de la lectio divina. Quel est le texte de l'évangile du jour? Moi, je nous conseille de lire l'évangile du jour la veille au soir, de le relire le matin, de prendre un temps pour dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'apprends sur toi? Quelle connaissance de toi ?» Vous allez voir, c'est fort. Première conséquence du péché originel, c'est l'ignorance. On peut même dire « Non, non, mais Dieu n'existe pas. » Un peu comme le poisson dit « L'eau n'existe pas. » Ok. Deuxième conséquence, la souffrance et la mort. Car Dieu ne veut pas la mort. Sagesse 2. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Et enfin, troisième conséquence, c'est l'inclination au péché. Ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. « Moi, je suis charnel, vendu comme esclave du péché. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais, ce que je veux, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, je le fais. » Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Romains 7, verset 14 et suivant. L'inclination au péché. Donc, ces trois conséquences nous entraînent plutôt vers le bas. Et finalement, c'est toute la création, nous dit saint Paul, qui va aspirer à la délivrance. Alors nous allons ressentir la pauvreté comme un manque, mais vital. D'abord au niveau matériel, une fois, vous savez, j'ai vécu un petit peu en Afrique, là où j'étais, les gens se nourrissait surtout avec le mil. Puis il y a ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire le mil, on le récolte plutôt au mois de septembre, si je ne m'abuse. Donc il y avait plusieurs mois, il n'y avait plus grand-chose à manger dans les greniers. Donc il n'y avait plus qu'un repas par jour pour tout le monde, y compris pour les enfants. Il y avait le ventre un petit peu, du coup, qui allait vers l'avant. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui vivent le manque matériel. Le manque physique, évidemment, c'est l'expérience du handicap, l'expérience de la maladie. Le manque au niveau psychique, l'expérience de l'angoisse, de la peur. Tous ces dysfonctionnements aussi de l'âme psychologique. On n'arrive plus à faire face aux contrariétés, aux épreuves de la vie. Et enfin, un manque spirituel. C'est ce que saint Paul a décrit. J'aurais fait le bien, mais je n'y arrive pas. Puis je fais le mal que je ne voudrais pas. Pauvreté. Alors c'est vrai que les conséquences des événements traumatiques de nos vies laissent des traces à tous ces niveaux. Donc c'est bien, effectivement, de travailler à ce niveau-là. Alors les blessures de vie, je vous les rappelle, les grandes blessures de vie, c'est la trahison. J'ai fait l'expérience d'être trahi par un proche. C'est le rejet. Ma mère voulait m'avorter. C'est l'abandon. Je suis un enfant adopté. J'ai été abandonné. L'humiliation. On a pu m'humilier, notamment quand j'étais à l'école. On m'a fait porter un bonnet d'âne, etc. Et enfin, l'injustice. Vous avez les cinq blessures de vie fondamentales. L'injustice. Nous sommes victimes d'injustice bien souvent. Dans notre enfance, on a pu recevoir une bonne gifle. C'était pas nous, ou pas ? Bon, il y a des injustices plus graves. Mais qui peuvent laisser des traces. Et on se rend compte aussi que non seulement les blessures de vie, mais les deuils que nous n'avons pas fait laissent des traces. J'ai refusé le décès de mon papa, de ma maman, ou de telles personnes proches. Combien nous rencontrons de personnes qui ne veulent plus se tourner vers Dieu parce que le deuil n'est pas fait. Il y a un refus de cette loi inscrite ici, dans nos vies. Et puis, dans les deuils, c'est aussi, peut-être nous n'avons pas accepté de devenir un adulte. Parce que vous savez, un enfant, quand il veut rester enfant, l'enfant roi, il a ses exigences. Donc, je peux rester un enfant et avoir ses exigences vis-à-vis de mon conjoint, si je suis marié, ou vis-à-vis de mon entourage. L'enfant roi. Il n'a pas fait le deuil des manques de son enfance. Manquer de l'amour de ma mère, alors dans le mariage, je vais exiger, n'est-ce pas, que mon conjoint me donne ce que ma mère ne m'a pas donné. Vous voyez, c'est très souvent que ça arrive, ça. Et c'est une catastrophe. Parce que si nous n'avons pas accepté ce manque, et nous verrons tout à l'heure comment l'accepter, alors nous restons bloqués. Et il y a ces phénomènes psychologiques qui se mettent en place, tout seul. Je vais passer ma vie à revendiquer ce que je n'ai pas eu. Si je suis bloqué avec mon père, ce que je n'ai jamais pardonné, que je ne m'étonne pas d'avoir des problèmes avec mon patron dans mon travail. Voilà. Alors, cette réalité de la pauvreté comme un manque que nous ressentons comme vital et qui est présenté aussi dans l'Ancien Testament, dans certains textes, comme une malédiction. Je m'explique, vous connaissez tous Deutéronome 30:15. Deutéronome 30:15. Je mets devant toi la vie ou la mort, choisis donc la vie où vous y êtes. Donc, si tu suis la loi, alors tout ira bien pour toi, et ça sera la vie. Mais si tu n'obéis pas au Seigneur ton Dieu, alors ça ne va pas aller pour toi. Ce n'est pas une menace de Dieu. C'est simplement que Dieu nous donne le mode d'emploi de la vie. Fais ceci et tu vivras, dit Jésus au jeune homme qui lui demande « qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Non, suis les commandements de Dieu, fais ceci et tu vivras. Alors, effectivement, ceux qui suivent la loi de Dieu, Deutéronome 28, il sera béni. Mais celui qui ne suit pas la loi de Dieu, il va avoir des problèmes. C'est assez intéressant. Vous trouvez ça, une liste de malédictions, je ne vais pas vous la lire, mais vous trouvez ça dans Deutéronome 28. Dans les malédictions liées à la désobéissance à la loi de Dieu, vous avez l'humiliation, la stérilité, la maladie mentale et physique, l'échec, la vie ratée, la pauvreté, la misère, la défaite, l'oppression, le foyer brisé. Tout ça, c'est toute une liste un peu impressionnante. Bon, on dit ça, c'est l'Ancien Testament, bon, etc. Oui, sauf que la loi, n'oublions pas que le mot yara en hébreu signifie direction, hein, élan. Donc la loi nous est donnée comme un chemin de vie. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant les attitudes spirituelles déviantes lorsque nous expérimentons cette pauvreté comme manque. Il y a des attitudes déviantes et c'est peut-être bien de les pointer pour dire à Dieu, ça, j'en veux pas dans ma vie. Qui t'a demandé pardon. Alors, évidemment, la première déviance, c'est l'autosuffisance. Ah oui. Alors, je vous recite Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 36. Si par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Bon, et un peu plus loin, mais si par autonomie du temporel, on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. En effet, la créature sans Créateur s'évanouit. Alors, ça peut paraître bête, mais quand nous sommes dans l'épreuve, est-ce que notre premier réflexe, c'est de nous tourner vers Dieu ? Question. Ou est-ce que notre premier réflexe, c'est la révolte ? La révolte même contre Dieu ? C'est cette deuxième attitude, mais qui fait partie de la première. Hein. L'enfermement dans la révolte contre Dieu, vous connaissez le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Job, on y reviendra plus tard, il lui arrive plein de malheurs alors que c'est un homme juste. Et il a perdu donc ses enfants qui sont tous morts. Tous ses biens, pillés, détruits, et puis enfin, il est malade. Job prit un tesson pour se gratter assis parmi les cendres. Sa femme lui dit, « Tu persistes encore dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur, comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ? En tout cela, Job ne commit pas de péché par ses lèvres. » Mais nous pouvons traîner des colères contre Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tel truc. Et là, on joue un peu à l'enfant roi, si vous avez bien compris ce que je disais tout à l'heure, mais avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit s'exécuter ici et maintenant. Sinon, je boude. Je m'arrête de respirer. Troisième enfermement, dans la rancœur. Et donc cette rancœur, c'est un refus de pardonner. Et le refus de pardonner, c'est, on va dire, une porte ouverte au démon. On va dire, c'est pratiquement la principale. N'oublions pas aussi que nous avons besoin de nous pardonner à nous-mêmes. Vous allez vous confesser, c'est bien. Mais est-ce que vous acceptez de lâcher votre propre justice? Est-ce que nous acceptons de lâcher nos propres justices par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, lorsque nous passons devant la justice de Dieu? Laissons la place à la justice de Dieu. Ça, c'est pas si facile. La rancœur. Luc 6, verset 37, même 36. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » On se souvient aussi de la parabole du débiteur infidèle. Voilà, il avait une dette épouvantable, et puis le maître lui remet sa dette. Et par contre, un de ses compagnons lui devait une toute petite somme, et il va se précipiter sur ce compagnon pour exiger un remboursement. Alors, le sort de cet homme, ça va être la prison et tout, quoi. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Du fond du cœur. Alors, si nous cherchons la délivrance, posons-nous la question, est-ce que j'ai pardonné du fond du cœur ? Enfin, cinquième enfermement, c'est l'enfermement dans ce que j'appelle, ce qu'on pourrait appeler, l'esprit victimal. Je suis une pauvre victime. L'esprit victimal, c'est quoi? C'est un refus intérieur de toute possibilité de résilience. J'ai été victime et on ne pense plus qu'à ça. Ça, c'est une belle porte ouverte au démon. Parce qu'il y a une espèce de refus de la vie. On va revendiquer, là, dans l'esprit victimal, on va revendiquer un remède, mais c'est nous qui prescrivons le remède, qui ne viendra peut-être jamais. Alors, je voudrais vous partager le récit d'une résilience très belle qui est racontée dans un livre justement qui s'appelle « Plus jamais victime », sous-titre « Victime ou responsable, je choisis ». Nous avons tous à choisir entre soit je suis une victime, soit je suis responsable. D'accord? Alors, c'est l'histoire d'un Polonais qui est raconté ici et qui va aider un Américain au moment de la libération dans un camp de concentration, le camp près de Wuppertal. Et ce Polonais rayonnait de santé. Donc l'Américain qui lui demande de l'aider parce qu'il parle plusieurs langues, eh bien il se dit, celui-là, il a été capturé et amené au camp il n'y a pas longtemps. Ah mais figurez-vous, pas du tout. Il était dans ce camp de concentration depuis 1939, c'est-à-dire depuis le début. Et depuis 6 ans, il avait vécu dans cet environnement où il voyait les gens qui mouraient, mais c'était des milliers. D'accord ? Alors, absolument inexplicable au niveau médical. Alors, un jour, il va raconter son histoire. Il était avocat et il vivait dans la section juive de Varsovie quand les nazis arrivent et font une descente et ils mettent tout le monde dans la rue. Alors, comme lui, il parlait allemand, il est mis de côté. Et devant ses yeux, ils alignent le long du mur toute sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses 5 enfants, ainsi que les voisins. Et tout le monde est descendu à la mitraillette. Et lui, hop, il est emmené en camp de concentration. Écoutez sa réaction. J'ai décidé à ce moment si j'allais me mettre à haïr les soldats qui avaient fait ceci. C'était en fait une décision facile. J'étais avocat. Dans ma pratique, j'avais trop souvent observé ce que la haine pouvait faire aux esprits et aux corps des gens. La haine venait d'être tuée. Les 6 êtres qui m'étaient les plus chers au monde. Écoutez bien. À cet instant, j'ai décidé que je passerais le reste de ma vie, fût-ce quelques jours ou de nombreuses années, à aimer toute personne avec qui j'entrerai en contact. Il a donc fait un choix conscient. C'est une décision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que bon, il ne parle pas spécialement d'un choix religieux, sauf qu'il est quand même juif, donc il s'appuie sur le Seigneur. Voilà, sans doute. Mais c'est ce choix qui l'a sauvé. Et effectivement, quelle que soit notre souffrance, nous qui connaissons le chemin de la résilience, c'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité, alors il n'y a plus qu'à. Mais allons-nous prendre ce chemin? Alors il y a quelque chose de très très choquant que dit Saint Jean Chrysostome dans un commentaire. Il dit « Personne ne peut être blessé sinon par lui-même. » C'est un peu dur à entendre. Hein? Alors, évidemment, on va essayer de bien comprendre ça. On peut être blessé d'une façon terrible, mais il y a une blessure, il y a une souffrance encore plus terrible, qui est la réaction à la blessure. Et ça, j'allais dire, la balle est dans notre camp. Peut-être on ne va pas y arriver, mais l'Église est là. Vous voyez ce que je veux dire? L'Église est là. On a des frères, des sœurs. Et ensemble, on va pouvoir y arriver. Mais encore faut-il accepter, eh bien, de prendre ce chemin de résilience. Parfois, ça voudrait dire, eh bien, si j'ai un problème d'addiction, ben, je peux faire une démarche médicale. Si j'ai des grosses angoisses, je peux peut-être aller faire eh bien, une psychothérapie avec quelqu'un que j'aurais choisi. Aussi, ma vie spirituelle est bloquée, je peux aller faire une retraite de pacification intérieure. Il y en a quand même un certain nombre en France qui sont proposés. Sinon, vous pouvez aller au Canada, les retraites agapées, les retraites... Il y en a beaucoup qui ont fait ça parmi vous ? Oui, pas tant que ça, finalement. Ben, je vous le conseille. Je vous le conseille, parce que ces retraites-là nous permettent justement eh bien, d'entrer dans une résilience avec Dieu. Et ça, c'est très intéressant. Regardez le récit des trois enfants dans la fournaise, dans le livre de Daniel. C'est quand même assez terrible ce qu'ils vivent. Ils auraient pu se plaindre, etc. Mais en fait, ils louent le Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est charismatique, ils sont complètement fous. Bon, voilà. Donc, les trois enfants dans la fournaise, ils ont trouvé le truc. Et à nous aussi, eh bien, de rentrer dans cette résilience et de repérer si dans nos vies, nous avons aussi gardé un esprit victimal. Parce que l'esprit victimal nous donne un peu comme des droits. Occupez-vous de moi. Et puis, je vais exiger des choses. Parce que quand même, avec tout ce qu'on m'a fait subir dans mon passé, vous voyez, et on va être assez imbuvable pour les autres. Vous voyez, donc, aller au-delà aussi de cet esprit victimal. Donc, nous avons vu que l'état de pauvreté, de manque, pouvait être assez terrible si nous ne prenons pas. Si nous n'avons pas la bonne posture intérieure, la bonne posture spirituelle. Parce que, effectivement, ce que nous dit l'Évangile, c'est que la pauvreté, et c'est ce que nous dit la Bible d'une façon ou d'une autre, c'est aussi une ouverture à la bénédiction. Alors, rappelons-nous les béatitudes, notamment la première béatitude dans Matthieu 5, heureux les pauvres de cœur, en grec c'est les pauvres par l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. On se rappelle aussi les exigences de Jésus. Luc 9, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et puis, il va dire, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit aussi au jeune homme riche, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah oui, parce que quel est le danger de la richesse ? Je n'ai pas besoin de Dieu, moi, mon Père, moi je n'ai pas besoin d'aller à la messe le dimanche. Je n'ai pas besoin. Il y a ce qu'il faut sur le compte en banque. J'ai une belle maison. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Bon, moi je réponds l'amour. Luc 18. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Alors, le programme, c'est donc que nous vivions cette pauvreté qui est la nôtre comme le lieu de l'alliance avec Dieu. Imaginez si vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie, on vous a toujours brossé dans le bon sens du poil. Tout va bien pour vous, vous avez simplement oublié qu'un jour vous allez mourir. Bon, ça c'est pas grave, enfin si. Mais par contre, Si vous avez fait l'expérience de l'épreuve, alors, il y a ici un heurt qui peut devenir bon et non plus mauvais. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. Vous vous rappelez cette histoire de Saint Paul qui se plaint un jour auprès du Seigneur. Malgré tous ses charismes et ses grâces, parce qu'il a été sans doute au 7e ciel, au moins au 3e, eh bien, il dit qu'il y a un suppôt de Satan qui a été chargé de le fouetter. On ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est une maladie physique, psychologique, spirituelle, on ne sait pas, on a tout dit, hein, sur les charmes par la chair. Et voilà que le Seigneur lui répond, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Voilà. Alors, telle est la clé de la béatitude des pauvres. La puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Alors, comment Dieu va s'y prendre pour nous le faire comprendre? D'abord, il se révèle comme un Dieu de miséricorde. Autrement dit, si vous lisez la Bible, depuis le début, Dieu n'est pas dans les nuages. Parfois on se dit, il est où ton Dieu? Dieu n'est pas lointain. Et dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même va parler à Moïse au buisson ardent. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu. Et un peu plus loin, je suis descendu. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il voit. Et pas seulement, parce qu'il est descendu aussi dans l'incarnation pour porter sur lui toutes nos souffrances. Rappelons-nous Isaïe 53, qui prophétise le Christ lui-même. C'est nos souffrances qu'il portait. Et nous ne le croyons châtié. Dieu descend. Il descend, comme dit la petite Thérèse, c'est en descendant qu'il montre sa puissance. Pour que l'amour soit satisfait, il faut qu'il s'abaisse. Qu'il s'abaisse jusqu'au néant pour transformer en feu ce néant. Vous avez reconnu ce que dit la petite Thérèse de Lisieux. Dieu descend et il fait alliance. Il ne laisse pas seul. Il est miséricorde. Et il ne cesse de nous dire que nous pouvons compter sur lui. Isaïe 41, « Ne crains pas Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. » Isaïe 49. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. J'ai toujours tes remparts devant les yeux. Alors, voilà, on pourrait multiplier hein, toutes ces citations, notamment dans les psaumes. Un pauvre cri, psaume 33, un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Alors, moi, c'est un conseil que je vous donne. Si jamais un jour, vous avez des angoisses. Psaume 33. C'est fort. Un pauvre cri. Le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Même si l'épreuve peut durer, vous voyez, Dieu est là. Dieu est là. Je dirais à mon Dieu, le psaume 41, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os, moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. » Il est mon sauveur et mon Dieu. Quand ça dure un peu trop, Lamentation 3, il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Voilà. Pour aujourd'hui, ça va suffire. Parce que, donc, retenons que face à toutes nos épreuves, le Seigneur est là. Il est là. Et il nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le fardeau. Venez à moi. Et moi, je vous soulagerai. Et mettez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de cœur. Voilà, c'est une voie qui s'ouvre pour nous. C'est la voie de l'amour. Qui va nous faire sortir de nos enfermements, dans l'orgueil, dans l'esprit victimal, dans tout ça. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.